France Musique. Musicopolis. Giuseppe Tartini, un diable d'homme. Si la réputation de diable s'est attachée à Tartini, c'est évidemment en raison de l'anecdote racontée par un certain Jérôme Delalande au sujet d'un rêve fait par le musicien. Mais c'est peut-être plus que ça en relation aussi avec ses dons au violon, proprement diabolique. Et peut-être encore à son caractère et sa personnalité, caractérisé, nous dit son biographe, par un tempérament fougueux et têtu avec une forte tendance au mysticisme. Pour faire connaissance avec Giuseppe Tartini, commençons par sa légende, carrément. Voici ce que dit l'astronome Jérôme Delalande, relatant son voyage en Italie en 1765 et 66. Personne n'a mis plus d'esprit et de feu dans ses compositions que Tartini. Il m'a raconté un trait qui prouve bien à quel point son imagination était embrasée par le génie de la composition. Il rêvait une nuit, en 1713, qu'il avait fait un pacte et que le diable était à son service. Tout lui réussissait à souhait, ses volontés étaient toujours prévenues et ses désirs toujours surpassés par les services de son nouveau domestique. Enfin, il imagina de lui donner son violon pour voir s'il parviendrait encore à lui jouer de beaux airs. Mais quel fut son étonnement lorsqu'il entendit une sonate si singulière et si belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence que jamais il n'avait rien entendu, ni même conçu, qui pût entrer en parallèle. Il éprouvait tant de surprise, de ravissement, de plaisir, qu'il en perdait la respiration. Il fut réveillé par cette violente sensation. Il prit à l'instant son violon, espérant de rendre une partie de ce qu'il venait de sentir. Mais ce fut en vain. La pièce qu'il composa pour l'or est à la vérité la plus belle qu'il ait jamais faite, et il l'appelle encore la sonate du diable. Mais elle était si fort au-dessous de ce qu'il avait entendu qu'il eût brisé son violon et abandonné pour toujours la musique s'il eût été en état de se passer des secours qu'elle lui procurait. Voilà donc pour l'anecdote du diable et de Tartini. Maintenant, reprenons sa biographie depuis le début et voyons un peu si nous trouvons, là aussi, quelque chose de diabolique. Giuseppe Tartini est né en 1692. Il est donc un peu plus jeune que Vivaldi, Rameau, Bach ou Handel. Il est né à Pirane, pas loin de Trieste, une petite ville d'Istrie, région qui dépend alors de la République de Venise. une jolie petite ville de bord de mer, au centre de laquelle trône aujourd'hui la place Tartini. La ville tient sa prospérité de ses salines, où on récolte, dit-on, une fleur de sel d'une qualité exceptionnelle. Le père de Tartini est justement directeur général des salines. La famille est très pieuse et l'on destine Giuseppe à la carrière ecclésiastique. Il est donc éduqué au séminaire, à Pirane, puis à la ville voisine de Capodistria. Il étudie les humanités et la rhétorique, quelques rudiments de musique. À 16 ans, en 1708, il quitte sa région pour entrer en droit à l'université de Padoue, de l'autre côté du golfe de Venise. Il ne reviendra plus jamais à Pirane, mais il se souviendra toujours de ses chants et danses populaires. Le jeune Tartini, à Padoue, est toujours habillé en prêtre, et pourtant son occupation principale est de se perfectionner en escrime. Selon ses contemporains, peu nombreux sont ceux qui peuvent se mesurer à lui. Et voilà qui montre à la fois un peu de son esprit rebelle et une certaine qualité sportive, le goût de l'entraînement et du défi. Tout cela se confirmera bientôt. En 1710, il rompt avec les projets de ses parents d'en faire un prêtre, et il se marie avec une jeune violoniste, d'une classe sociale inférieure à la sienne. Il est obligé de quitter Padoue pour se réfugier au couvent Saint-François, à Assise. C'est là qu'il se consacre à la pratique du violon, sans professeur. Grâce à un correspondant de Tartini, on apprend que, dès les premières années de sa jeunesse, il s'est consacré, malgré ses parents, à la musique instrumentale. Et une fois parti de la maison paternelle, il s'est tellement occupé que chaque jour, pendant 8 heures, son seul et unique exercice n'a été que le violon. Mais il faut bien gagner un peu sa vie tout de même. Et en 1714, notre Tartini est dans l'orchestre de l'opéra d'Ancône, dans les Marches. 2 ans plus tard, à Venise, il entend le grand virtuose Veracini. Il est tellement impressionné qu'il se retire à nouveau dans les Marches pour essayer de se mettre au niveau. Après avoir entendu Veracini, Giuseppe Tartini s'est donc retiré dans les Marches pour travailler intensément son violon, notamment sa technique d'archet. Il fait des allers-retours entre Fano, où il est premier violon de l'opéra, et Venise, où il enseigne à quelques nobles familles. En 1721, il n'a pas encore 30 ans, il est nommé premier violon et maître de concert à la basilique Saint-Antoine de Padoue. Son contrat est exceptionnel et témoigne de la notoriété qu'il a déjà acquise. Non seulement il a été exempté d'examen de recrutement, mais en plus, une totale liberté lui est accordée. Il peut jouer dans des opéras ou des académies musicales, à droite, à gauche, quand il le désire. Il en profite et on va l'entendre à Parme, à Bologne, à Ferrare et encore plus souvent à Venise. Jérôme de Lalande, le voyageur français qui a raconté l'histoire du rêve de Tartini, écrit que Padoue est dans une plaine agréable, sur la Brenta, dont les bords sont couverts jusqu'à la mer de villages et de maisons délicieuses. La ville a dans son voisinage des collines, d'où se tire le meilleur vin et la meilleure huile de l'Italie. Si l'on n'était pas assuré, poursuit Lalande, que le paradis terrestre a été dans l'Asie, je croirais qu'il n'a pu être que dans le territoire de Padoue. L'intérieur de la ville n'a pas beaucoup d'apparence. En général, les rues sont longues et ressemblent à des cloîtres, soutenus par de gros piliers courts et sans goût. Mais on y a l'extrême commodité des portiques, sous lesquels on est à couvert le long des rues. L'église consacrée à saint Antoine, nous dit notre voyageur de 1765, est l'un des lieux de dévotion les plus célèbres de l'Italie et bâtie sur les ruines d'un ancien temple. Elle est d'un vieux gothique, à peu près comme l'église de Saint-Marc à Venise. On y voit 6 dômes, dont 2 composent sa nef. La musique de cette église est composée de 40 personnes, dont 16 pour la voix et 24 pour les instruments. Le célèbre Tartini est actuellement l'un d'eux. De même que Antonio Vandini de Bologne, fort estimé pour le violoncelle, Matteo Bisioli de Bresse pour le hautbois, Valotti, piémontais, maître de chapelle, l'un des plus estimés de l'Italie. 4 grands buffets d'orgue, dorés, aussi bien que le baldaquin du Grand Hôtel, font un coup d'œil très majestueux. « 1723, Giuseppe Tartini est appelé à Prague par l'intermédiaire de son ami le violoncelliste Vandini pour jouer aux festivités du couronnement de l'empereur Charles VI comme roi de Bohême. Il rencontre d'éminents collègues compositeurs comme Fuchs ou Quantz. Quantz écrira que la sonorité de Tartini était magnifique, avec des doigts et un coup d'archet exceptionnels, avec toujours beaucoup de clarté, y compris dans les trilles et doubles trilles, les doubles cordes et les notes les plus aiguës de l'instrument. Giuseppe Tartini reste pendant 3 ans à Prague, au service de la famille Kinski, avant de revenir en 1726 vers le climat de Padoue, qui lui convient mieux, semble-t-il. Il n'en bougera plus, refusant même de prestigieuses invitations à Paris ou à Londres. C'est à cette époque qu'il fonde son école de violon, qui attire des élèves de partout en Europe, et même un qui arrive de Java, et qu'on appelle pour cette raison l'école des nations. Ce sont pour la plupart des violonistes professionnels envoyés par leurs employeurs pour se perfectionner avec lui. Tartini se rend souvent à Venise, à 40 km de là, où il enseigne aussi aux jeunes filles des ospedale, comme Maddalena Lombardini. Vers 1740, il souffre d'une attaque qui paralyse un moment son bras gauche. Peu à peu, il va laisser son violon et passer plus de temps à la composition et à l'enseignement. Mais surtout, il va se passionner pour des sujets théoriques sur le son, la nature du son et les principes physiques et mathématiques qui le régissent. Il trouve à qui parler à Padoue, avec les maîtres de chapelle Calegari puis Vallotti, tous deux très intéressés dans ces matières, et aussi son ami d'Istri, Gian Rinaldo Carli, professeur d'astronomie à l'université de Padoue. Peu à peu, au fil du temps, Giuseppe Tartini développe ses théories et il les couche sur le papier. Il écrit un premier « Traité selon la véritable science de l'harmonie » qui circule d'abord en manuscrit à partir de 1750. Le traité est discuté par d'éminents collègues, notamment le père Martini et le mathématicien Balbi de Bologne. L'opuscule sera publié en 1754, mais en raison de critiques qui le jugent trop obscur, Tartini en écrit un second, « Des principes de l'harmonie musicale contenus dans le genre diatonique », où il clarifie son propos. Il écrit aussi de manière informelle à destination de ses élèves quelques règles pour le jeu du violon, notamment en 1760, une lettre à Maddalena Lombardini qui sera ensuite publiée. « L'étude principale, déclare-t-il, doit être celle de l'usage de l'archet, qui permettra l'entière maîtrise de l'exécution et de l'expression, quoi que l'on joue ou chante. » De plus en plus, Tartini privilégie l'expression par rapport à la virtuosité, ce qui correspond à ses idées sur la musique, qui ne doit être qu'imitation de la nature, but suprême de l'art. On entend le développement de ses idées, notamment dans la grande expressivité de ses mouvements lents. Des idées qui, en fait, dérivent de son mysticisme, qui en sont la continuation. Derrière elle se trouve la notion d'une tâche confiée à lui par Dieu, tâche de révéler à l'humanité les principes unificateurs de l'univers. Le presto final du concerto en la majeure D96 de Giuseppe Tartini. Chouchane Cyrano-Sian au violon avec l'orchestre baroque de Venise dirigé par Andrea Marcon. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Bruno Mourland pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.